Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, secrétaires et secrétaires des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Surabaya va construire trois autres centres de PME. Les personnes sont importantes de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le vice-président indonésien et l'ambassadeur australien discutent de la coopération en matière de cybersécurité. L'Indonésie presse le déficit avec l'Australie par IACEPA. Et enfin, le président invite les groupes belligérants afghans en Indonésie. Voici le journal complet. La municipalité de Surabaya préparera trois centres de développement de petites et moyennes entreprises ou PME à l'aéroport de Juanda, au port de Tanjung Perak et à Park and Ride Meijen Sungkono. Le chef du service commercial, Akhini Pakistianingsih, a déclaré à Surabaya, l'Est de Java, lundi, que les trois points compléteraient les quatre centres de petites et moyennes entreprises qui sont déjà établis. Il a expliqué que l'ajout des centres d'affaires des PME chez la communauté vise à accueillir le développement des PME dans la communauté. Selon elle, ceux qui ont déjà des produits commerciaux ont besoin d'une place pour commercialiser leurs produits sur le marché. Le ministère de l'Environnement et des Forêts fixe des objectifs qu'en 2030, l'Indonésie réduira les émissions de gaz à effet de serre. Selon le directeur général du contrôle des changements climatiques du ministère de l'Environnement et des Forêts, Nur Mas Pripatin, la participation de la communauté à la durabilité environnementale et à la conservation de l'eau peut réduire l'effet de gaz à effet de serre. Il a déclaré à Radio République Indonésie à Jakarta lundi que chaque individu peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris l'économie d'eau et garder la durabilité environnementale. Il croit qu'avec une population de 250 millions, s'efforcera de réduire de plus en plus les gaz à effet de serre. Le vice-président Yusuf Kalla et l'ambassadeur d'Australie en Indonésie, Paul Grigson, ont discuté du développement de la coopération en matière de cybersécurité comme l'un des efforts à surmonter le radicalisme et le terrorisme. Paul Grigson, au bureau du vice-président Jakarta, a déclaré lundi que l'Indonésie et l'Australie ont développé une coopération dans le domaine de cybersécurité et les ministres australiens sont venus en Indonésie et ils ont rencontré récemment Wiranto à Singapour et ont parlé de la manière de travailler ensemble parce que les deux pays font face aux mêmes défis. Paul Grigson espère que dans les mois à venir, certains spécialistes australiens visiteront l'Indonésie et partageront leur expertise dans le domaine de cyber. Tandis que l'Australie attend également les spécialistes d'Indonésie de visiter l'Australie. L'ambassadeur Grigson a rencontré Yusuf Kalla dans son bureau pour continuer la rencontre du vice-président avec la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis en septembre dernier, pour discuter la coopération de cyber, la coopération économique bilatérale et des problèmes dans la région, y compris la crise humanitaire qui a frappé Rohingya au Myanmar. Les négociations de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie, IACEPA, se tiendront à Jakarta du 2 au 6 octobre. Les négociations qui ont entré au 9e rang pourraient aboutir à un accord de coopération qui peut réduire le déficit commercial de l'Indonésie. Le négociateur en chef qui dirige la délégation indonésienne, Dedi Saleh, a déclaré que ces dernières années, la balance commerciale de l'Indonésie avec l'Australie a effectivement augmenté. Toutefois, l'Indonésie est dans une position de déficit sur la base des données du ministère du Commerce. Pour la période de janvier-juin 2017, l'Indonésie a connu un déficit commercial avec l'Australie de 1,67 milliard dollars américains. Ce chiffre a augmenté presque le double par rapport à la même période l'année dernière, lorsque l'Indonésie n'a connu qu'un déficit d'une valeur de 854,98 millions dollars américains. Cette condition place également l'Australie comme le troisième contributeur du déficit pour l'Indonésie après la Chine et la Thaïlande. Pendant ce temps, le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, a déclaré que les négociations IACPA n'ont laissé que de ronds supplémentaires. Il espère que les deux parties conviendront immédiatement en accord de coopération au moins de la fin de 2017, conformément à l'objectif commun. Le président indonésien Joko Widodo invitera des représentants de 40 groupes belligérants en Afghanistan pour venir en Indonésie pour discuter des efforts de paix et d'unité. Selon le président Joko Widodo, l'Indonésie montrera la diversité qui peut vivre côte à côte. Au total, 714 tribus avec une variété de langues et de cultures réunies dans l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI. Le président a rappelé que l'Indonésie est un grand pays, n'est pas parce que l'Indonésie possède beaucoup de nombreuses ressources naturelles et il y a 17 000 îles, mais aussi la pluralité ou la diversité ethnique, culturelle et des langues, de la pluralité ou des religions. Il n'y a pas d'autre pays aussi pluraliste que l'Indonésie. L'Indonésie est aussi un grand pays parce que la population atteint de 158 millions de personnes. Il n'est pas facile de les gérer. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers fidèles auditeurs et auditrices, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et pour le titre « Le batik indonésien entre à la mondialisation ». Hier, le 2 octobre 2017, nombreux Indonésiens portent le batik. C'est une façon de commémorer la Journée nationale du batik qui s'inscrit à cette date. Depuis que l'UNESCO a fixé le batik en tant que chef d'œuvre du patrimoine immatériel de l'humanité, le 2 octobre 2009, de nombreuses personnes d'Indonésie portent le batik chaque cette date. La détermination de la Journée nationale du batik est renforcée par le décret présidentiel numéro 33 de 2009, basé sur la considération à améliorer l'image positive et la dignité de la nation indonésienne dans les forums internationaux. Bien sûr, pour cultiver la fierté et l'amour des gens de la culture indonésienne. Un autre objectif est de sensibiliser le public à la protection et au développement du batik indonésien. Sur la base de l'histoire, l'art du batik a développé en Indonésie depuis le XVIIe siècle. Il a été écrit ou peint sur des feuilles de palmier avec des motifs dominés par la forme des animaux et des plantes. Dans son développement, le motif batik devient plus diversifié. Il est connu qu'il existe de nombreux secteurs en Indonésie qui ont un style de batik distinctif. Mais maintenant, les motifs de batik de l'île de Java sont encore très dominants de l'industrie du batik en Indonésie. Interpréter la Journée nationale du batik ne suffit pas juste pour se sentir fier, parce que ce patrimoine culturel est reconnu internationalement. Ou même simplement porter le batik à des occasions spéciales. De plus, cela est responsable du peuple indonésien de maintenir et de développer l'art de batik indonésien. L'industrie indonésienne du batik doit être plus capable de concurrencer sur le marché international. Citant le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Haris Munanda, la valeur d'exportation des produits du batik et le batik jusqu'au premier semestre 2017 a atteint 39,4 millions de dollars américains avec les principaux marchés du Japon, des États-Unis et de l'Europe. Le commerce des produits de vêtements prêts à porter du monde, qui atteint 442 millions de dollars américains, est devenu une excellente occasion pour l'industrie du batik d'augmenter sa part de marché. Tout cela sera réalisé avec la promotion continuelle du batik. L'introduction du batik avec les motifs et la philosophie qui y sont contenus dedans doit être mis en œuvre. La collaboration avec les parties internationales dans le domaine de la mode doit être renforcée. Les créateurs du mode indonésien devraient utiliser plus de batik en tant que des signes à promouvoir dans le monde. Les invités de l'État, tels que le président, le chef de l'État ou les institutions internationales visitant l'Indonésie, portent le batik, peuvent être un lieu de promotion du batik indonésien. Une autre chose à noter est la régénération des artisans du batik indonésien. Comme tenu actuellement, la plupart des batik indonésiens ont plus de 40 ans. La socialisation sur le batik et la profession du batik devraient faire souvent. Ceci est nécessaire pour augmenter la sensibilisation de la jeune génération d'Indonésie que les artisans du batik est une profession prometteuse et que l'industrie du batik a un rôle important dans l'économie nationale. Espérons que le batik d'Indonésie continue d'être durable et en croissance. Serviteur, c'est le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 3 octobre 1943, la création de PETA. PETA, ou les défenseurs de la patrie, ou Kyodo Byugun, est une armée de volontaires indonésiennes qui a été créée le 3 octobre 1943 en Indonésie par le gouvernement colonial japonais à cette époque-là. Le 18 août 1945, le lendemain de la proclamation de l'indépendance indonésienne, basé sur l'accord de capitulation japonais avec le bloc allié, l'armée impériale japonaise a ordonné à tous les bataillons PETA d'abandonner leurs armes. Le nouveau président de la République d'Indonésie, M. Sukarno, a soutenu cette dissolution que de transformer PETA en armée nationale en raison des allégations du bloc allié que le nouveau-né indonésien était un collaborateur de l'Empire japonais, s'il permet à la milice étant créée par le Japon de continuer. La contribution et le rôle des soldats de PETA pendant la guerre d'indépendance indonésienne étaient très grands, y compris le rôle de l'ancienne armée de PETA dans l'indépendance indonésienne. Pour commémorer la lutte de l'armée PETA, le 18 décembre 1995, le monument de PETA à Bogor a été inauguré. Le 3 octobre 1965, la découverte des corps des officiers de l'armée de terre de la République d'Indonésie, victime du mouvement de 30 septembre 1965. Dans le contexte de la situation politique qui était très chaude en 1960, le Parti communiste indonésien a joué de son influence politique dans le gouvernement de l'Indonésie à l'époque-là. Avec les trois plus grandes additions dans le monde à l'époque-là, après l'Union soviétique et la Chine, le Parti communiste d'Indonésie finalement, directement ou indirectement, a soutenu le mouvement de 30 septembre 1965 qui vise à renforcer l'idéologie communiste en Indonésie. Le Parti communiste d'Indonésie a l'enlèvement et meurtre de 6 officiers de haut rang de l'armée de terre indonésienne et le premier officier. Après 3 jours de ce mouvement, grâce à l'information d'un agent de police, qui était détenu mais a réussi à échapper à l'enlèvement. Les corps des victimes ont été retrouvés dans un trou de puits dans la région de Lubangbuaya le 3 octobre 1965. La découverte des corps des officiers de l'armée de terre à la fin des activités du Parti communiste indonésien, qui est devenu plus tard le parti interdit dans ce pays, et dans le même temps la chute du régime de l'ancien ordre et la chute de Sukarno en tant que président. Le 3 octobre 1990, la réunification de l'Allemagne. La réunification allemande est le processus qui a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne. Après l'effondrement de l'Union soviétique à la fin de 1990, l'Allemagne de l'Est touchait aussi son impact. Précédée par l'effondrement du mur de Berlin par milliers d'Allemands en novembre 1989. Enfin, les autres fonctionnaires de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne Ouest se sont réunis et ont publié une déclaration pour réunir la ville de Berlin qui est séparée par un mur comme un symbole de l'effondrement de la guerre froide entre l'Occident et l'Orient. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Les investissements doivent être augmentés pour accroître la croissance économique. Avec un investissement plus élevé, la croissance économique nationale pourrait atteindre 6 à 7%. À l'heure actuelle, le plus important n'est pas seulement l'intérêt, mais aussi réaliser l'investissement. Pour encourager cela, de bonnes infrastructures et des licences sont nécessaires. Cela a été dit par la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati. En tant que conférencier au bureau central de Pertamina, Jakarta, vendredi le 29 septembre. Elle a expliqué que l'intérêt élevé des investisseurs doit être soutenu par diverses choses, telles que la connectivité d'infrastructures, la facilité du processus d'octroi de licences. Selon lui, les investisseurs veulent investir, mais il n'y a pas d'infrastructure et de licence. Selon la ministre des Finances, ces dernières années, le taux de croissance économique et d'investissement est assez bon. En Indonésie, la consommation et l'investissement sont assez bons pour l'année 2017, où la croissance économique est de 5% qui est soutenue par l'investissement et la consommation assez stable. Au deuxième trimestre de cette année, l'investissement est de 5,4%. Ainsi, par rapport à 2016, les investissements de croissance sont de 4,2% à 5,4%. Si vous souhaitez atteindre une croissance économique de 6% à 7%, la croissance de l'investissement devrait continuer d'être améliorée à la fois par l'investissement étranger et l'investissement intérieur. Selon lui, les investissements étrangers et les investissements intérieurs de l'Indonésie sont relativement bons. Ils augmentent de 12,7%. Mais si l'Indonésie veut une croissance économique de 6 à 7%, la croissance de l'investissement pourrait être élevée à 12,7%. En outre, selon Sri Mulyani, l'Indonésie a un capital suffisant si elle veut augmenter le montant de l'investissement. L'Indonésie devient un pays très attractif du côté de l'investissement parce qu'il y a du marché et du pouvoir d'achat. Ceci, selon lui, doit être soutenu par une politique macroéconomique stable et bonne. Chers auditeurs, c'était la mise au point.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Surabaya va construire 3 autres centres de PME. Les personnes sont importantes de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le vice-président indonésien et l'ambassadeur australien discutent de la coopération en matière de cybersécurité. L'Indonésie presse le déficit avec l'Australie par IACEPA. Et enfin, le président invite les groupes belligérants afghans en Indonésie.
La voix de l'Indonésie, faites vers le monde.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore dans l'émission du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons la tradition du Gubregan. Restez toujours ici avec nous à Radio République Indonésie, service international La Voix d'Indonésie. Chers auditeurs, la majorité des Indonésiens travaillent comme agriculteurs. Pour eux, le bétail est un peu spécial et pas un animal ordinaire, car son rôle est important pour aider les agriculteurs à cultiver des rizières. Puis leurs excréments peuvent être utilisés pour fertiliser l'engrais. Les produits agricoles sont également transportés avec du bétail, surtout lorsque les moyens de transport modernes ne sont pas encore disponibles. En outre, les agriculteurs considèrent également leur bétail comme des investissements pour le futur, car plus que le bétail est grand, le prix sera plus coûteux. Le rôle important du bétail dans la vie des agriculteurs en fait une grande nécessité pour les agriculteurs. Les agriculteurs espèrent également que leur bétail continue de se développer et de se multiplier. Par conséquent, une tradition appelée Grumbegan a été tenue pour remercier aux dieux qui donnent la vie et la subsistance à travers les animaux de ferme. Cette tradition qui a duré pendant des générations est tenue par les habitants du Padukuhan Blimbing, le village Karangrejek, le sous-district de Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Cette tradition a eu lieu au mois de Sura ou Muharram, un mois javanais et musulman, considéré comme sacré par la société javanaise et qui se tient habituellement une fois par an. Chers auditeurs, la tradition Gumbregan commence par une prière ensemble. Le plat traditionnel est ensuite servi comme le manioc, kimpul, kupat, kolak de banane, jada et trembili. Il y a aussi amon-amon, le riz blanc emballé dans des feuilles de banane en forme de cône de petite taille. Après la prière, l'événement continue en allant au stable du bétail. L'eau claire qui était inclue dans la procession de prière est ensuite poudrée et appliquée à la tête du bétail. Après, on donne la nourriture au bétail en remerciant son rôle dans la vie et la fortune du peuple. Les animaux qui reçoivent ces nourritures sont habituellement des vaches et des chèvres, car ces animaux sont très utiles pour les gens locaux. Chers auditeurs, le riz de ketupat, qui étaient inclus dans la prière ensemble sont également amenés au stable du bétail. Ils sont placés au plafond du stable et après avoir nourri le bétail, c'est le tour du peuple pour manger ensemble. En marge de la tradition Gumbregan, les résidents tiennent des spectacles pour les enfants sous la forme d'une danse traditionnelle des ateliers locaux. Puis dans la soirée, on déroule généralement des spectacles de poupées traditionnelles ou wayang kulit. La tradition du Gumbregan se déroule généralement l'après-midi ou juste avant le crépuscule, lorsque les citoyens et les agriculteurs rentrent chez eux des rizières. Chers auditeurs et auditrices, voilà l'édition du magazine culturel aujourd'hui dont le sujet est la tradition Gumbregan. On se retrouve encore demain avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditeurs. Vous écoutez maintenant la voix d'Indonésie avec moi, Udri, qui vous présente le programme Mari Berbahasa Indonesia, ou bien en français, Parlons indonésien. C'est un programme pour faire connaître les vocabulaires indonésiens et ça vous apprend pour communiquer en indonésien. On réalise ce programme grâce à la collaboration entre la Voix d'Indonésie, la diffusion mondiale de la Radio République Indonesia, RRI, et le département de développement et de formation linguistique du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Alors, notre sujet d'aujourd'hui est Ketaman Safari. Ketaman Safari, ou en français, au parc safari. Bonne écoute. Tout d'abord, je vais vous présenter les vocabulaires et les expressions ayant le lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Je vais les prononcer deux fois et vous pouvez les répéter après moi. D'accord? Alors, on commence. Hari Sabtu. Hari Sabtu. En français, samedi. Kebun binatang. Kebun binatang. En français, zoo. Pergi. Pergi. En français, aller. Sudah lama. Sudah lama. En français, ça fait longtemps. Melihat. Melihat. En français, regardez. Monette. Monette. En français, songe. Binatang. Binatang. En français, animal. Panda. Panda. En français, panda. Doua, doua. En français, de. Datang, datang. En français, venir. China, China. En français, Chine. Harimau, harimau. En français, tigre. Singa, singa. En français, lion. Gajah, gajah. En français, éléphant. Girafe, girafe. En français, girafe. Kangourou, kangourou.
En français, kangourou. Lion, lion. Lion, lion. En français, etc. Sabtu pagi. Sabtu pagi. En français, samedi matin. Jemput. Jemput. En français, chercher. Tungu. Tungu. En français, attendre. Di rumah saya. Di rumah saya. En français, chez moi. Chers auditeurs et auditeurs, après avoir présenté les vocabulaires, on va maintenant les appliquer dans une conversation intitulée « Ketaman Safari » ou en français « Au parc Savary ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement chaque phrase deux fois et vous pouvez la répéter après moi. Cette conversation faite par Nita et Ika au bureau. On commence. Ika, hari Sabtu, saya mau ke kebun binatang. Ika, hari Sabtu, saya mau ke kebun binatang. En français, Ika, samedi, je vais au zoo. Apakah kamu mau pergi bersama saya? Apakah kamu mau pergi bersama saya? En français, est-ce que tu veux y aller avec moi? Ika. Ya, saya juga sudah lama tidak pergi ke kebun binatang. Ya, saya juga sudah lama tidak pergi ke kebun binatang. En français, oui, ça fait longtemps que je ne vais pas au zoo. Saya suka melihat monyet. Saya suka melihat monyet. En français, j'aime regarder le singe. Kamu suka melihat binatang apa? Kamu suka melihat binatang apa? En français, tu aimes regarder quel animal? Nita. Saya paling suka binatang panda. Saya paling suka binatang panda. En français, j'adore regarder le panda. Ika. Bagaimana kalau kita ke taman safari? Bagaimana kalau kita ke taman safari? En français, qu'est-ce que tu en penses si on va au parc safari? Saya dengar ada dua ekor panda datang dari Cina. Saya dengar ada dua ekor panda datang dari Cina. En français, j'ai entendu qu'il y a deux pandas venant de la Chine. Nita. Oh, saya senang sekali. Oh, saya senang sekali. En français, oh, je suis très heureuse. Selain melihat monyet, kita juga bisa melihat harimau, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan lain-lain. Selain melihat monyet, kita juga bisa melihat harimau, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan lain-lain. Outre le singe, on peut aussi regarder le tigre, le lion, l'éléphant, le kangourou, etc. Ika. Kalau begitu, Sabtu pagi saya jemput kamu. Kalau begitu, Sabtu pagi saya jemput kamu. En français, donc le samedi matin, je vais te chercher. Nita. Terima kasih. Terima kasih. Merci. Saya tunggu kamu di rumah. Saya tunggu kamu di rumah. Je vais t'attendre chez moi. Chers auditrices et auditeurs, c'était le programme Mari berbahasa Indonesia ou Parlons l'Indonésien d'aujourd'hui avec moi Udri. Espérons que cette édition pourra être profitable pour vous qui voulez mieux connaître l'Indonésien. Merci de votre attention. Au revoir.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id ou à travers notre émetteur à ondes courtes sur 9525 kHz. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un chanteur de Dangdut de l'Indonésie, Juan Rahman. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson de Juan Rahman intitulée La poésie du silence. Bonne écoute.
aku merindukanmu. Dengarlah kasih, dengarlah sayang, ku dendang syair kesunyian. Namun tak lagi mewangi bunga di tangkai hati, kini telah layu pupus tiada semi kembali. Karena kau pergi tinggalkan ku sendiri, sisakan hampa dalam sepi sunyi. Akankah selamanya hingga aku menutup mata. Namun tak lagi mewangi bunga di tangkai hati, kini telah layu pupus tiada semi kembali. Karena kau pergi kan hampa di dalam sepi sunyi. Sunyi. Sunyi.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson « La poésie des silences » chantée par Juan Rahman, ancien élève d'un concours de dangdut sur la télévision privée, qui est également devenu le meilleur chanteur de dangdut de la version de Anugerah Dangdut Indonesia 2016. La chanson intitulée « La poésie des silences » composée par Nurbayan vient de sortir à la mi-septembre. Cette chanson est arrangée par Marcel Aulia et aidée par Eri Susan en tant que directrice vocale. À travers cette chanson, Yuan espérait qu'il devenait un artiste qui contribue bien à la musique de dangdut dans le pays. Bon, chers auditeurs, voici la chanson suivante de Juan Rahman intitulée « Montang ». Bonne écoute.
Hai Kak Eri.
Hai Ade. Kita vitam yuk.
Wah, pas banget. Gimana kalau kita jalan-jalan?
Oke.
Oke, sampai ketemu ya. Dadah.
Dadah.
Hari ini aku mau santai dulu. Aku mau happy, gak mau pusing.
Handphone terus bunyi, aku silent dulu. Mungkin dari baby atau relasi.
Aku ingin santai sejenak hari ini. Gak mikir masalah yang tak pernah berhenti.
Sorry baby, mungkin ku bikin kamu keki. Maaf teman-teman, lagi pengen sendiri.
ingin sampai sejenak hari ini. Gak mikir masalah yang tak pernah berhenti. Sorry baby, mungkin ku bikin kamu keki. Maaf teman-teman, lagi pengen sendiri.
Me time, me time, me time, me time.
Me time, me time.
Call me, call me, call me later. 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 Oh, 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 oh.
Me time.
Call me, call me, call me later. 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 Oh, 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 oh,
oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
Le chanteur de dangdut né Amanda Eiling Natal, nord de Sumatra, en 1998, est l'une des anciens élèves du concours de dangdut à la station de télévision privée en 2007. Bien qu'il n'ait pas gagné dans le concours de dangdut, Yuan est sûr avec sa carrière en tant que chanteur de dangdut dans le pays. Il a ensuite sorti son premier single intitulé Untung Ada Kamu en 2013. Succès avec cette chanson, Yuan a relancé plusieurs singles. L'un d'entre eux est intitulé « Montang ». À ce single, Yuan n'est pas seul. Il a chanté cette chanson avec la chanteuse Erke Susan. Cette chanson, publiée au début de 2017, est composée par Adi Bal. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici ces deux dernières chansons intitulées « Kiblat Cinta » et « Miel ». Bonne écoute et à demain.
Hidupku, oh, dan juga matiku. Kau kiblat cintaku, oh, dan arah rinduku. Tawaku, oh, dan juga tangisku. Engkau bahagiaku, oh, dan juga sedihku. Kau indah. tiada sempurna.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Nafasku akan terhenti bila kau tiada. Madu, madu, orangnya manis, semanis madu, membuat hati selalu dunia. senyuman manis bibirmu. Aku tak bisa berpisah darimu sayangku. Sehari saja tak jumpa, rindu aku
tentang program pour ce soir rendez-vous demain même heure même fréquence à bientôt.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter, Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.